Émile Zola, Fécondité. Livre premier, chapitre 1. Ce matin-là, dans le petit pavillon à la lisière des bois, où ils étaient installés depuis 3 semaines, Mathieu se hâtait pour prendre à Janville le train de 7 heures, qui chaque jour le ramenait à Paris. Il était 6h30 déjà, et il y avait 2 grands kilomètres du pavillon à Janville. Puis, après les 3 quarts d'heure du trajet, c'était 3 autres quarts d'heure pour aller de la gare du Nord au boulevard de Grenelle, de sorte qu'il n'arrivait guère à son bureau de l'usine que vers les 8h30. Il venait d'embrasser les enfants, heureusement endormis, car il ne le laissait plus partir, leurs petits bras noués à son cou, riant et le baisant. Et comme il rentrait vivement dans la chambre à coucher, il trouva sa femme Marianne, au lit encore, mais réveillée, à demi assise. Elle était allée tirer un rideau. Toute la radieuse matinée de mai entrait, la baignant d'un flot de gai soleil, dans la beauté saine et fraîche de ses 24 ans. Lui, son aîné de 3 ans, l'adorait. « Tu sais, chérie, je me dépêche, j'ai peur de manquer le train. Alors, tâche de t'arranger, tu as encore 30 sous, n'est-ce pas ?» Elle se mit à rire, charmante avec ses bras nus et ses admirables cheveux bruns défaits. La continuelle gêne de leur jeune ménage la laissait vaillante et joyeuse. Elle, mariée à 17 ans, lui à 20, chargée de 4 enfants déjà. « Puisque c'est la fin du mois aujourd'hui et que tu touches ce soir, je paierai demain les petites dettes à Janville. Il n'y a que les lepailleurs pour le lait et les œufs qui m'ennuient, car ils ont toujours l'air de croire qu'on veut les voler. 30 sous, mon chéri. Mais nous allons faire la fête !» Elle riait toujours. Elle lui tendait ses bras fermes et blancs pour le revoir de chaque matin. « Pars vite, puisque tu es pressé. J'irai ce soir t'attendre au petit pont. »« Non, non, je veux que tu te couches. » « Tu sais bien qu'aujourd'hui encore, si je ne manque pas le train de 11h moins un quart, je ne serai à Janville qu'à 11h30. »« Oh, quelle journée! J'ai dû promettre aux Moranges de déjeuner chez eux. Et ce soir, Beauchesne traite un client, un dîner d'affaires, auquel il faut que j'assiste. Couche-toi et fais un beau dodo en m'attendant. » Elle hocha gentiment la tête, ne s'engageant à rien. « Et n'oublie pas, reprit-elle, de passer chez le propriétaire, lui dire qu'il pleut dans la chambre des enfants. Ce Séguin du Hordel, riche à millions, a beau ne nous louer cette masure que 600 francs, ce n'est pas une raison pour que nous devions nous y laisser tremper comme sur la grande route. Tiens, j'aurais oublié, je passerai chez lui, je te le promets. » Mais à son tour, il l'avait prise dans ses bras, et le revoir se prolongeait, il ne s'en allait plus. Elle s'était remise à rire, elle lui rendait de gros baisers sonores. Entre eux, c'était tout un amour de belle santé, la joie de l'union totale et profonde, de n'être qu'une chair et qu'une âme. « Va-t'en donc, va-t'en donc, chérie. Ah, souviens-toi de dire à Constance qu'avant de partir pour la campagne, elle devrait venir passer un dimanche avec Maurice. Oui, oui, je le lui dirai. « À ce soir, chérie. » Il revint, la reprit d'une étreinte forte, lui posa un long baiser sur les lèvres qu'elle lui rendit de tout son cœur, et il se sauva. D'ordinaire, en arrivant à la gare du Nord, il prenait l'omnibus. Mais les jours où il n'y avait que 30 sous à la maison, il faisait gaillardement le chemin à pied. C'était d'ailleurs un très beau chemin, la rue Lafayette, l'Opéra, les grands boulevards, la rue Royale, puis, après la place de la Concorde, le cours de la Reine, le pont de l'Alma et le quai d'Orsay. L'usine Beauchesne s'étendait tout au bout du quai d'Orsay, entre la rue de la Fédération et le boulevard de Grenelle. Il y avait là un vaste terrain en équerre, dont une des pointes, sur le quai, se trouvait occupée par une belle maison d'habitation, un hôtel de briques encadré de pierres blanches, que Léon Beauchesne, le père d'Alexandre, le patron actuel, avait bâti. Des balcons, on apercevait, au-delà de la Seine, sur le coteau, les maisons hautes de Passy, parmi des verdures. Tandis que sur la droite se dressaient les deux campaniles du palais du Trocadéro. À côté, on voyait encore, longeant la rue de la Fédération, un jardin et une petite maison, l'ancien logis modeste de Léon Beauchesne, au temps héroïque d'acharné travail où il fondait sa fortune. Puis, les bâtiments, les hangars de l'usine, tout un amas de bâtisses grises surmontées de deux immenses cheminées, occupaient le fond du terrain et la partie en retour sur le boulevard de Grenelle, qu'un grand mur sans fenêtre fermait. Cette très importante maison de mécanicien constructeur, bien connue, fabriquait surtout des machines agricoles, depuis les machines les plus puissantes jusqu'aux outils ingénieux et délicats qui nécessitent des soins particuliers de perfection. Et, outre les quelques centaines d'hommes journellement employés, il existait là un atelier qui comptait une cinquantaine de femmes, des brunisseuses et des polisseuses. L'entrée des ateliers et des bureaux était rue de la Fédération, un large portail d'où l'on apercevait l'énorme cour avec son pavé continuellement noir que des ruisseaux d'eau fumante sillonnaient souvent. Des poussières épaisses montaient des hautes cheminées, des jets stridents de vapeur sortaient des toits, pendant qu'une trépidation sourde, dont le sol tremblait, disait le branle intérieur, le continuel grondement du travail. Il était 8h35 à la grosse horloge du bâtiment central, lorsque Mathieu traversa la cour pour se rendre à son bureau de dessinateur en chef. Depuis 8 ans déjà, il était à l'usine, où il avait débuté, dès 19 ans, après des études spéciales très brillantes, comme aide-dessinateur, à 100 francs par mois. Son père, Pierre Froment, qui avait eu de sa femme Marie 4 fils, Jean, l'aîné, puis Mathieu, Marc et Luc, tout en les laissant maîtres de leur vocation, s'était efforcé de leur donner à chacun un métier manuel. Léon Beauchesne, le fondateur de l'usine, était mort depuis 1 an, et son fils Alexandre venait de lui succéder et d'épouser Constance Meunier, la fille d'un très riche fabricant de papier peint du Marais, lorsque Mathieu entra dans la maison, sous les ordres de ce patron si jeune, qui n'avait guère que 5 ans de plus que lui. Et ce fut là qu'il connut Marianne, alors âgée de 16 ans, une cousine pauvre d'Alexandre, et qu'il épousa l'année suivante. Dès sa 12e année, Marianne était tombée à la charge de son oncle, Léon Beauchesne. Un frère de celui-ci, Félix Beauchesne, après des échecs de toutes sortes, esprit brouillon, hanté d'un besoin d'aventure, s'en était allé, avec sa femme et sa fille, tenter la fortune en Algérie. Et cette fois, la ferme créée par lui, là-bas, prospérait. Lorsque, dans un brusque retour de brigandage, le père et la mère furent massacrés, les bâtiments détruits, de sorte que la fillette, sauvée par miracle, n'eut d'autre refuge que la maison de son oncle, qui se montra très bon pour elle pendant les 2 années qu'il vécut encore. Mais il y avait là Alexandre, de camaraderie un peu lourde, et surtout une sœur cadette de celui-ci, Séraphine, une grande fille détraquée et mauvaise, qui heureusement quitta la maison presque tout de suite, dès 18 ans, dans un scandale effroyable, une fuite avec un certain baron de Lowitz, un baron authentique, escroc et faussaire, auquel il fallut la marier, en lui donnant 300 000 francs. Puis, lorsque, son père mort, Alexandre à son tour dut songer à se marier, forcé d'épouser pour son argent Constance, qui lui apportait un 500 000 de dot, Marianne se trouva plus étrangère, plus isolée encore, près de sa nouvelle cousine, maigre, sèche, despotique, maîtresse absolue dans le ménage. Mathieu était là, et quelques mois suffirent. Un bel amour, sain et fort, naquit, grandit entre les deux jeunes gens. Non pas le coup de foudre qui jette les amants au bras l'un de l'autre, mais l'estime, la tendresse, la foi, la mutuelle certitude du bonheur dans le don réciproque, qui font l'indissoluble mariage. Et ils furent ravis de s'épouser sans un sou, de n'apporter que leur grand cœur, à jamais. Mathieu fut mis à 2 400 francs, et son cousin par alliance, Alexandre, lui fit simplement entrevoir une association possible, pour beaucoup plus tard. D'ailleurs, peu à peu, Mathieu Froment allait se rendre indispensable. Le jeune maître de l'usine, Alexandre Beauchesne, venait de traverser une crise inquiétante. La dot que son père avait dû tirer de sa caisse pour marier Séraphine, d'autres fortes dépenses occasionnées par cette fille rebelle et perverse, l'avaient forcé à diminuer un instant son capital d'exploitation. Puis, au lendemain de sa mort, on s'était aperçu qu'il avait eu l'insouciance assez fréquente de ne pas laisser de testament. De sorte que Séraphine, très âprement, s'était mise en travers des intérêts de son frère, réclamant sa part, voulant l'obliger à vendre l'usine. Toute la fortune avait failli de la sorte être dépecée, l'usine coupée en morceaux, anéantie. Beauchesne en frémissait encore de terreur et de colère. Heureux d'avoir enfin réussi, pour désintéresser sa sœur, à lui payer trop largement sa part, en argent. Mais la plaie ouverte restait béante, et c'était afin de la combler qu'il avait épousé le 500 000 de Constance, fille laide, dont il trouvait la possession amère dans ses appétits de beau mâle, et si sèche et si maigre que lui-même l'appelait « Satos », avant de consentir à en faire sa femme. En 5 ou 6 années, tout fut réparé. Les affaires de l'usine doublèrent, une grande prospérité se déclara. Et Mathieu, qui était devenu un des collaborateurs les plus actifs, les plus nécessaires, avait fini par occuper le poste de dessinateur en chef, aux appointements de 4 200 francs. Morange, le chef comptable, dont le bureau était voisin, allongea la tête dès qu'il entendit le jeune homme s'installer devant sa table à dessin. « Dites donc, mon cher Froment, n'oubliez pas que vous déjeunez chez nous. » « Oui, oui, mon bon Morange, c'est chose entendue, je vous prendrai à midi. » Et Mathieu se mit à revoir avec soin l'épure d'une batteuse à vapeur, une invention à lui, d'une parfaite simplicité et d'une puissance considérable, à laquelle il travaillait depuis longtemps, et qu'un gros propriétaire beauceron, M. Firon-Badinier, devait venir examiner l'après-midi. Mais la porte du cabinet du patron s'ouvrit brusquement. Beauchesne parut. Grand, le visage coloré, avec le nez fort, la bouche épaisse, de gros yeux bruns à fleur de tête, il portait toute sa barbe, une barbe noire qu'il soignait beaucoup, ainsi que ses cheveux, ramenés en boucle sur le crâne pour cacher un commencement grave de calvitie, à 32 ans à peine. Dès le matin, en redingote, il fumait déjà. Un cigare, et sa voix haute, sa gaieté sonnante, son activité bruyante, exprimaient la santé encore belle d'un jouisseur égoïste, pour qui l'argent, le capital décuplé par le travail des autres, était l'unique, la souveraine puissance. « Ah, c'est prêt, n'est-ce pas ? Monsieur Firon-Badinier m'a encore écrit qu'il serait ici à 3 heures. Et vous savez que je vous emmène au restaurant avec lui ce soir. Car ces gaillards-là, on ne les décide aux commandes qu'en les arrosant de bon vin. Ici, ça fâche Constance, et je préfère les traiter dehors. Vous avez prévenu Marianne ?
Parfaitement. Elle sait que je ne rentrerai que par le train de 11h moins le quart.
Beauchesne s'était laissé tomber sur une chaise.
Oh, mon ami, je suis éreintée. J'ai dîné en ville hier soir. Je ne me suis couchée qu'à 1h. Et tout ce travail qui m'attendait ici ce matin, il faut vraiment une santé de fer.
Jusque-là, il s'était montré un travailleur prodigieux, réellement doué d'une résistance, d'une énergie extraordinaire. Il avait en outre fait preuve d'un flair constant pour les opérations heureuses. Levé le premier dans l'usine, il voyait tout, prévoyait tout, l'emplissait de son zèle retentissant à en doubler chaque année le chiffre d'affaires. Mais depuis quelque temps, la fatigue mordait davantage sur lui. Toujours, il s'était fortement amusé, faisant une large part dans sa vie de labeur à ses jouissances, celles qu'il avouait et celles qu'il n'avouait pas. Si bien que maintenant, certaines noces, comme il disait, le mettaient sur le flanc. Il regardait Mathieu.
« Vous avez l'air d'aplomb, vous. Comment faites-vous pour ne paraître jamais fatigué ?»
Le jeune homme, en effet, debout devant sa table à dessin, semblait avoir la santé robuste d'un jeune chêne. Grand, mince, brun, il avait le front des froments, large et haut, en forme de tour. Il portait ses épais cheveux coupés ras, la barbe en pointe, un peu frisante. Et ce qui caractérisait surtout le visage, c'était les yeux, profonds et clairs, vifs et réfléchis à la fois, presque toujours souriants. Un homme de pensée et d'action, très simple et très gai, très bon aussi.
« Oh, moi !» répondit-il en riant. « Je suis sage !»
Mais Beauchesne protestait.
« Ah non, ce n'est pas vous qui êtes sage. On n'est pas sage quand on a 4 enfants déjà à 27 ans. Et 2 jumeaux. Votre Biaise et votre Denis, pour commencer. Et puis votre Ambroise. Et puis votre petite Rose. Sans compter l'autre fillette que vous avez perdue à sa naissance avant celle-ci. Ça vous en ferait 5 malheureux. Non, non, c'est moi qui suis sage, moi qui n'en ai qu'un, et qui sais me borner, en homme raisonnable et prudent. »
C'étaient là les habituelles plaisanteries, où perçait une indignation vraie, dont il accablait le jeune ménage insoucieux de sa fortune, cette fécondité de sa cousine Marianne, qu'il déclarait scandaleuse. Mathieu continuait de rire, sans même répondre, habitué à ses attaques, qui lui laissait toute sa sérénité. Lorsqu'un ouvrier entra, le père Moineau, comme on le nommait à l'usine, bien qu'il eût à peine 43 ans. Court et trapu, avec une tête ronde, un cou de taureau, la face et les mains crevassées par plus d'un quart de siècle de travail. Il était mécanicien ajusteur. Il venait pour soumettre au patron une difficulté dans le montage d'une machine. Mais celui-ci ne lui laissa pas le temps de s'expliquer, tout à son emportement contre les familles trop nombreuses.
« Et vous, père Moineau, combien avez-vous d'enfants ?»«
7, monsieur Beauchesne, » répondit l'ouvrier un peu interloqué. « J'en ai perdu 3. »«
Alors, ça vous en ferait 10 ? Eh bien, c'est au propre. Comment voulez-vous ne pas crever de faim ?»
Moineau, lui aussi, s'était mis à rire. Un ouvrier parisien, imprévoyant et gai, qui n'avait pour toute joie que la rigolade avec sa femme, quand il avait bu un coup.
Les petits, ça poussait sans qu'il s'en aperçût seulement. Et même, il les aimait bien, tant qu'il ne s'était pas envolé du nid. Et puis, ça travaillait, ça rapportait un peu.
Mais il préféra s'excuser d'un mot plaisant qui lui semblait très vrai au fond.
« Dame, monsieur Beauchesne, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme. »
Tous les 3 s'égayèrent, et l'ouvrier ayant enfin expliqué la difficulté qui se présentait, les 2 autres le suivirent pour juger du travail par eux-mêmes. Ils allaient s'engager dans un couloir lorsque le patron, voyant ouverte la porte de l'atelier des femmes, voulut le traverser, désireux d'y jeter son coup d'œil habituel. C'était une vaste salle, longue, où les polisseuses, en blouse de serge noire, assises sur deux rangs devant leurs petits établis, ponçaient les pièces et les passaient à la meule. Presque toutes étaient jeunes, quelques-unes jolies, la plupart de face commune et basse. Et une odeur de fauve se mêlait à celle des huiles rances. Pendant le travail, la règle était le silence absolu. Toutes bavardaient. Puis, dès que le maître fut signalé, brusquement les voix tombèrent. Il n'y en eut qu'une, qui, la tête tournée, ne voyant rien, se disputant avec une autre, continua furieuse. C'étaient les deux sœurs, justement deux filles du père Moineau. Euphrasie, la cadette, celle qui riait, une maigriotte de 17 ans, aux cheveux pâles, à la face longue, sèche et pointue, pas belle et l'air méchant. Et l'aînée, Norine, 19 ans à peine, une jolie fille celle-là, une blonde aussi, mais à la chair de lait, et grasse et forte, des épaules, des bras, des hanches, une claire figure de soleil avec des cheveux fous et des yeux noirs. Toute la fraîcheur de ces museaux parisiens où éclate la beauté du diable. Sournoisement, Norine laissait aller Euphrasie, toujours en querelle avec elle, heureuse de la faire prendre en faute. Et il fallut que Beauchesne intervînt. Il se montrait d'habitude très sévère dans l'atelier des femmes, sans complaisance aucune, ayant eu jusque-là pour théorie qu'un patron est perdu qui s'oublie à rire avec ses ouvrières. En effet, malgré les gros appétits de mâle qu'il promenait au dehors, disait-on, pas la moindre histoire ne courait sur ses ouvrières et lui. Il n'avait encore touché à aucune. « Eh bien, mademoiselle Euphrasie, vous tairez-vous? C'est indécent. Vous aurez 20 sous d'amende. Et si je vous entends encore, je vous mets à pied pour 8 jours. » Saisie, la jeune fille s'était retournée. Étouffant de rage, elle jeta un coup d'œil terrible à sa sœur, qui aurait bien pu la prévenir. Mais celle-ci continuait à sourire, de son air discret de belle fille désirable, regardant le maître en face, comme certaine de n'avoir plus rien à en redouter. Leurs yeux se rencontrèrent, s'oublièrent 2 secondes les uns dans les autres, et il reprit, les joues colorées, s'adressant à toutes. « Dès que la surveillante tourne le dos, vous jacassez, vous vous querellez. Méfiez-vous, ou vous aurez affaire à moi. » Moineau, le père, avait assisté à la scène, impassible, comme si les deux ouvrières, celle que le patron punissait et l'autre, celle qui le regardait sournoisement, n'étaient pas ses filles. La tournée continua. Les 3 hommes quittèrent l'atelier des femmes au milieu d'un silence de mort, dans l'unique ronflement des petites meules. En bas, lorsque la difficulté d'ajustage fut vaincue et que l'ouvrier eut des ordres, Beauchesne remonta dans ses appartements en emmenant Mathieu, qui voulait faire, à Constance, l'invitation dont Marianne l'avait chargée. Une galerie réunissait les bâtiments noirs de l'usine à l'hôtel luxueux du quai. Et ils trouvèrent Constance dans un petit salon tendu de satin jaune qu'elle affectionnait, assise près d'un canapé, sur lequel était allongé Maurice, le fils unique adoré, qui venait d'avoir 7 ans. « Est-ce qu'il est souffrant ?» demanda Mathieu. L'enfant avait l'air fort, d'une grande ressemblance avec son père, les mâchoires plus épaisses. Mais il était pâle, les paupières lourdes, légèrement cernées. Et la mère, cet os, une petite femme brune, sans teint, jaune et flétrie à 26 ans, le regardait d'un air d'égoïste orgueil. « Oh non, il n'est jamais malade !» répondit-elle. « Seulement il se plaint des jambes, alors je le fais s'allonger, et j'ai écrit hier soir au docteur Boutan de passer ce matin. »« Bah !» cria Beauchesne avec un gros rire. « Les femmes sont toutes les mêmes. Un enfant qui est fort comme un turc. Ah ! Je voudrais bien voir que ce gaillard-là ne fût pas solide !» Justement, le docteur Boutan entra. Un homme gros et court, d'une 40aine d'années, avec des yeux très fins dans sa figure épaisse, entièrement rasée, qui exprimait une grande bonté. Tout de suite, il examina l'enfant, le palpa, l'ausculta. Puis, de son air de bienveillance, sérieux pourtant, « Non, non, il n'y a rien, c'est la croissance. Un enfant qu'un hiver de Paris a rendu un peu pâle et que vont remettre quelques semaines de grand air passées à la campagne. »«
Je le disais bien !»
cria de nouveau Beauchêne. Constance avait gardé dans la sienne la petite main de son fils, qui, allongée de nouveau, refermait les paupières d'un air las. Et elle souriait, heureuse, agréable malgré sa face ingrate, quand elle voulait s'en donner la peine. Le docteur s'était assis, aimant à s'attarder, à causer dans les maisons amies. Accoucheur, soignant surtout les maladies des femmes et des enfants, il était le confesseur naturel, il savait tous les secrets, se trouvait comme chez lui dans les familles. C'était lui qui avait accouché Constance de ce fils unique, si gâté, et Marianne des 4 enfants qu'elle avait déjà. Mathieu, debout, avait attendu pour faire son invitation. « Alors, dit-il, si vous devez partir prochainement pour la campagne, venez donc passer un dimanche à Janville. Ma femme serait si heureuse de vous avoir, de vous montrer notre campement. » Et il plaisanta sur le dénuement du pavillon écarté qu'ils occupaient, raconta qu'ils n'avaient encore qu'une 12aine d'assiettes et 5 coquetiers. Mais Beauchêne connaissait le pavillon, car il chassait par là tous les hivers. Il avait une part dans la location des vastes bois dont le propriétaire avait mis la chasse en action.
Vous savez bien que Séguin est mon ami, j'y ai déjeuné dans votre pavillon. C'est une masure.
À son tour, Constance, que l'idée d'une telle pauvreté rendait moqueuse, se rappela ce que Madame Séguin, Valentine, comme elle la nommait, lui avait dit du délabrement de cet ancien rendez-vous de chasse. Le docteur, qui écoutait en souriant, intervint. « Madame Séguin est une de mes clientes. Lors de ses dernières couches, je lui avais conseillé d'aller l'habiter, ce pavillon. L'air y est admirable. Les enfants doivent pousser là comme du chien-dent. » Du coup, avec son rire sonore, Beauchêne reprit sa plaisanterie ordinaire.
« Ah bien, mon cher Mathieu, méfiez-vous. À quand votre 5e ?»«
Oh !» dit Constance d'un air offensé. « Ce serait une vraie folie. J'espère que Marianne va s'en tenir là. Vraiment, cette fois, vous seriez sans excuse, sans pardon. » Et Mathieu entendait bien ce qu'ils voulaient dire tous les deux. Il les prenait, Marianne et lui, en dérision, en une pitié où il entrait de la colère, ne comprenant pas que, de gaieté de cœur, on pût se mettre ainsi dans la gêne. La venue de leur dernière, la petite Rose, avait déjà tellement augmenté leur charge qu'ils avaient dû se réfugier à la campagne, au fond d'un taudis de pauvres. Et ils commettraient cette imprudence suprême d'avoir un enfant encore, eux, sans rien, sans fortune, sans un pouce de bien au soleil. Puis, continua Constance, avec la pruderie de son éducation rigide, ça finirait par être vraiment malpropre. Moi, quand je vois des gens qui traînent derrière eux une bande d'enfants, ça me répugne, comme si je voyais une famille d'ivrognes. C'est pareil, c'est même plus sale. Beauchêne éclata d'un nouveau rire, bien que là-dessus, il dut être d'un avis contraire. D'ailleurs, Mathieu restait très calme. Jamais Marianne et Constance n'avaient pu s'entendre. Elles différaient trop en toutes choses. Et il prenait gaiement les attaques. Il évitait de se fâcher pour ne pas en arriver à une rupture. « Vous avez raison, dit-il simplement. Ce serait une folie. Pourtant, si un 5e doit venir, on ne peut guère le renvoyer d'où il vient. »
« Oh, il y a des moyens !» cria Beauchêne.
« Des moyens ?» répéta le docteur Boutan, qui écoutait de son air paterne. « Je n'en connais pas qui ne soit coupable et dangereux. » Beauchêne se passionna. Cette question de la natalité et de la dépopulation actuelle était une de celles qu'il croyait posséder à fond et qu'il tranchait volontiers en beau parleur. Il récusa d'abord Boutan, qu'il savait l'apôtre convaincu des familles nombreuses.
le plaisantant, lui disant qu'un médecin accoucheur ne pouvait avoir dans la matière une opinion désintéressée. Puis, il sortit tout ce qu'il savait vaguement de Malthus, la progression géométrique des naissances et la progression mathématique des subsistances, la terre peuplée et réduite à la famine en moins de 2 siècles. C'était la faute des pauvres s'ils mouraient de faim. Ils n'avaient qu'à se restreindre, à ne faire que le nombre d'enfants qu'ils pouvaient nourrir. Les riches, qu'on accusait faussement de malfaisance sociale, loin d'être responsables de la misère, étaient au contraire les seuls raisonnables, ceux qui, en limitant leur famille, faisaient acte de bons citoyens. Et il triomphait, répétait qu'il n'avait rien à se reprocher, que sa fortune, toujours grossie, lui laissait la conscience tranquille. Tant pis pour les pauvres s'il voulait rester pauvre. Vainement, le docteur lui répondait que l'hypothèse de Malthus était désormais ruinée, que ses calculs portaient sur l'accroissement possible et non sur l'accroissement réel. Vainement, il lui prouvait que la crise économique actuelle, la mauvaise distribution des richesses sous le régime capitaliste, était l'exécrable et unique cause de la misère, et que, le jour où le travail serait justement réparti, la terre féconde nourrirait à l'aise une humanité décuplée et heureuse. L'autre se refusait à rien entendre, s'installait béatement dans son égoïsme en déclarant que tout cela ne le regardait pas, qu'il était sans remords d'être riche, et que ceux qui avaient envie d'être riches n'avaient en somme qu'à faire comme lui. Alors, c'est la fin raisonnée de la France, n'est-ce pas ? Dit Boutan avec malice. Le chiffre des naissances en Angleterre, en Allemagne, en Russie monte toujours, tandis qu'il baisse effroyablement chez nous. Nous ne sommes déjà plus, par le nombre, qu'à un rang très inférieur en Europe. Et le nombre aujourd'hui, c'est plus que jamais la puissance. On a calculé qu'il faut une moyenne de 4 enfants par famille pour que la population progresse, détermine et maintienne la force d'une nation. Vous n'avez qu'un enfant. Vous êtes un mauvais patriote. Hors de lui, Beauchesne s'emporta, s'étrangla. Moi, un mauvais patriote? Moi qui me tue de travail? Moi qui vends des machines, même à l'étranger? Certes, oui, j'en vois autour de moi des familles, des connaissances à nous, qui peuvent se permettre d'avoir 4 enfants. Et j'accorde que celles-là sont bien coupables, quand elles ne les ont point. Mais moi, mon cher, moi, je ne peux pas. Vous savez bien que dans ma situation, je ne peux absolument pas. Et il exposa, pour la 100e fois, ses raisons. Il raconta comment l'usine avait failli être dépecée, anéantie, parce qu'il avait eu l'ennui d'avoir une sœur. Séraphine s'était conduite abominablement. La dot d'abord, puis le partage exigé à la mort de leur père. L'usine sauvée par un sacrifice d'argent considérable, qui en avait compromis longtemps la prospérité. Et l'on s'imaginait qu'il allait recommencer l'imprudence de son père, courir le risque de donner un frère ou une sœur à son petit Maurice, pour que celui-ci se retrouvât dans l'embarras mortel où le patrimoine aurait pu sombrer? Non, non, il ne l'exposerait pas à un partage, puisque la loi était mal faite. Il le voulait maître unique de cette fortune qu'il tenait de son père, et que lui-même lui transmettrait décuplée. Il rêvait pour lui la suprême richesse, la colossale fortune, qui, seule aujourd'hui, assure le pouvoir. Constance, qui n'avait pas lâché la main de l'enfant, au pâle visage, s'était remise à le contempler avec une passion d'orgueil extraordinaire. Cet orgueil de la fortune chez l'industriel et le financier, aussi âpre et combatif que l'orgueil du nom chez l'ancien noble. Lui seul, et pour qu'il fût roi, un de ces princes de l'industrie, maître du monde nouveau. Va, mon mignon, sois tranquille, tu n'auras ni frère ni sœur. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et si le papa s'oubliait, la maman est là qui veillerait. » Ce mot rendit toute sa grosse gaieté à Beauchesne. Il savait sa femme plus têtue que lui, plus résolue à limiter la famille. Lui, brutal et joyeux, décidé à se faire la vie bonne, fraudait assez maladroitement dans l'alcôve conjugale, allait au dehors pour le reste. Et peut-être le savait-elle, tolérante, fermant les yeux sur ce qu'elle ne pouvait empêcher. À son tour, il se baissa pour embrasser l'enfant. « Tu entends, Maurice ? C'est bien vrai ce que dit maman. Nous n'irons pas en chercher un autre dans le chou. » Et, se tournant vers Boutan, « Vous savez, docteur, que les femmes ont des petits moyens à elles. »«
Hélas !» dit doucement celui-ci, « j'en ai soigné une dernièrement, qui en est morte. »
Dès lors, ce fut chez Beauchêne du fou rire. Tandis que Constance, blessée, affectait de ne pas comprendre. Et Mathieu, qui s'était abstenu d'intervenir, restait grave, car cette question de la natalité lui semblait effrayante, passionnante, la question mère, celle qui décide de l'humanité et du monde. Il ne s'est pas fait un progrès sans que ce soit un excès de la natalité qui l'ait déterminé. Si les peuples ont évolué, si la civilisation a grandi, c'est qu'ils se sont multipliés d'abord, pour se répandre ensuite par toutes les contrées de la Terre. Et l'évolution de demain, la vérité, la justice, ne sera-t-elle pas nécessitée de nouveau par cette poussée constante du plus grand nombre, la fécondité révolutionnaire des travailleurs et des pauvres ? Toutes ces choses, il ne se les disait pas nettement. Il se sentait un peu honteux de ses 4 enfants déjà, troublé par les conseils d'évidente prudence que les Beauchêne lui donnaient. Mais sa foi en la vie luttait, sa croyance que le plus de vie possible doit amener le plus possible de bonheur. Un être ne naît que pour créer, pour transmettre et propager de la vie. Et il y a aussi la joie de l'organe, du bon ouvrier qui a fait sa tâche. Alors, Marianne et moi, nous comptons sur vous à Janville, l'autre dimanche ? Il n'eut pas encore de réponse. Un domestique entrait, dire qu'une femme, avec un enfant au bras, désirait parler à madame. Et Beauchêne, ayant reconnu la femme de Moineau, l'ouvrier mécanicien, la fit entrer. Boutan, qui s'était levé, resta curieusement. La Moineaude était une femme grosse et courte, comme son mari, d'une 40aine d'années, usée avant l'âge, avec une face grise, des yeux troubles, des cheveux rares et décolorés, une bouche molle où beaucoup de dents manquaient déjà. Ses nombreuses couches l'avaient déformée, et elle s'abandonnait. « Eh bien, ma brave femme, que voulez-vous ? » demanda Constance. Mais la Moineaude restait effarée, gênée par tout ce monde, qu'elle ne devait pas s'attendre à rencontrer là. Elle se taisait, ayant bien compté trouver madame seule. « C'est votre dernier ?» lui demanda Beauchêne en regardant l'enfant qu'elle avait sur le bras, blême et chétif. « Oui, monsieur, c'est mon petit Alfred. Il a 10 mois et j'ai dû le sevrer parce que le lait ne venait plus. Avant celui-là, il y en a eu 9 autres, dont 3 sont morts. Mon aîné, Eugène, est militaire là-bas, au diable, au Tonkin. Vous avez à l'usine mes 2 grandes filles, Norine et Euphrasie, et il m'en reste 3 à la maison. Victor, qui a 15 ans, puis Cécile et Irma, 10 ans et 7 ans. Alors, ça s'est arrêté. J'ai bien cru que c'était fini d'en pondre plus souvent qu'à mon tour. J'étais contente. Mais voilà que ce gosse est encore venu. À 40 ans, si c'est permis. Il faut que le bon Dieu nous ait abandonnés, mon pauvre mari et moi. » Un souvenir égaya Beauchêne. « Vous savez ce qu'il dit, votre mari ? Il dit que ce n'est pas lui, que c'est vous qui les faites, les enfants. « Ah oui, il plaisante, pour ce que ça lui coûte d'en faire. Moi, vous comprenez, j'aimerais autant autre chose. J'en ai eu la terreur dans les premiers temps. Mais que voulez-vous ? Il faut bien se soumettre. Et je cédais. Je n'avais pas envie, naturellement, que mon homme allât voir d'autres femmes. Puis il n'est pas méchant, il travaille, il ne boit pas trop. Et quand un homme n'a que ça pour plaisir, Ce serait vraiment malheureux, n'est-ce pas, que sa femme le contrarie ?»
Le docteur Boutan intervint pour poser une question, de son air tranquille.
« Vous ne saviez donc pas que, même en s'amusant, on peut prendre des précautions ?»«
Dame, monsieur, ce n'est pas toujours commode. Les soirs où un homme rentre un peu gai, après avoir bu un litre avec les camarades, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, Moineau dit que ça lui gâte son plaisir. »
Dès lors, ce fut le docteur qui l'interrogea, en évitant de regarder les beaux chênes. Mais sa malice souriait dans ses petits yeux, et il était visible qu'il s'amusait à reprendre les raisonnements de l'usinier contre la fécondité trop grande. Il affectait de se fâcher, de reprocher ses 10 enfants à la Moineaude, des malheureux, de la chair à canon ou à prostitution, lui déclarant que si elle était misérable, c'était bien sa faute. Car lorsqu'on veut faire fortune, on ne va pas s'embarrasser d'une séquelle d'enfants. Et la pauvre femme répondait tristement qu'il avait bien raison. Mais l'idée ne pouvait pas même leur venir de faire fortune. Moineau savait qu'il ne serait jamais ministre. Et alors, ça ne faisait ni chaud ni froid d'avoir sur les bras plus ou moins d'enfants. Ça aidait même d'en avoir beaucoup quand les enfants étaient en âge de travailler.
Devenu muet, Beauchêne se promenait à pas lents. Un embarras, un malaise grandissait. Et Constance se hâta de reprendre.
« Enfin, ma brave femme, que puis-je faire pour vous ?»«
Mon Dieu, madame, je suis bien ennuyée. Et c'est une chose que Moineau n'a pas osé demander à Monsieur Beauchêne. Moi-même, j'espérais vous trouver seule et vous prier d'intercéder pour nous. Voilà. Nous vous aurions une très grande reconnaissance si l'on voulait bien prendre notre petit Victor à l'usine.
« Mais il n'a que 15 ans, dit Beauchêne. « Attendez qu'il en ait 16, la règle est formelle. »
« Sans doute, seulement on pourrait peut-être mentir un petit peu. Cela nous rendrait un si grand service. »
« Non, c'est impossible. »
De grosses larmes parurent dans les yeux de la Moineaude. Et Mathieu, qui écoutait passionnément, fut bouleversé. Oh, cette misérable chair à travail qui venait s'offrir, sans attendre d'être mûre pour l'effort. L'ouvrier qui veut mentir, que la faim oblige à se mettre contre la loi qui le protège. Lorsque la Moineaude fut partie, désespérée, le docteur continua sur le travail des enfants et des femmes. Dès les premières couches, une femme ne peut rester à l'usine. La grossesse, l'allaitement, la clouent au logis, sous peine de danger grave pour elle et pour le nourrisson. Et quant à l'enfant, il reste anémié, estropié souvent, sans compter que son embauchement à prix réduit est une cause injuste de la baisse des salaires. Puis, il revint sur la fécondité de la misère, sur le pullulement dans les basses classes, qui n'ont rien à risquer, rien à ambitionner. N'est-ce pas la natalité la plus exécrable, celle qui multiplie à l'infini les meurs de faim et les révoltés ?
Je vous entends bien, finit par dire sans se fâcher Beauchêne, en arrêtant brusquement sa promenade qu'il avait reprise. Vous voulez me mettre en contradiction avec moi-même, me faire confesser que j'accepte les 7 enfants de Moineau et que j'ai besoin d'eux. Tandis que moi, avec ma volonté formelle de m'en tenir à un fils unique, je mutile la famille pour ne pas mutiler la propriété. La France, le pays des fils uniques, comme on la nomme maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien oui, c'est vrai. Mais, mon cher, la question est si complexe, et combien j'ai raison, au fond ?
Alors il voulut s'expliquer. Il se tapa de nouveau sur la poitrine en criant qu'il était libéral, démocrate, prêt à réclamer tous les progrès sérieux. Il reconnaissait volontiers qu'il fallait faire des enfants, que l'armée avait besoin de soldats et les usines d'ouvriers. Seulement, il invoquait aussi les devoirs de prudence des hautes classes. Il raisonnait en riches, en conservateurs qui s'immobilisent dans la fortune acquise. Et Mathieu finit par comprendre la vérité brutale. Le capital est forcé de créer de la chair à misère.
Il doit pousser quand même à la fécondité des classes salariées, afin d'assurer la persistance de ses profits. La loi est qu'il faut toujours trop d'enfants pour qu'il y ait assez d'ouvriers à bas prix. En outre, la spéculation sur le salariat ôte toute noblesse au travail, qui est regardé comme le pire des maux, lorsqu'il est en réalité le plus précieux des biens. De sorte que tel est le chancre dévorant. Dans les pays d'égalité politique et d'inégalité économique, le régime capitaliste, la richesse, iniquement distribuée, exaspère et restreint à la fois la natalité, en viciant de plus en plus l'injuste répartition. D'un côté, les riches, à fils unique, dont l'entêtement à ne rien rendre accroît sans cesse la fortune, de l'autre, les pauvres, dont la fécondité désordonnée émiette sans cesse le peu qu'ils ont. Que demain le travail soit honoré, qu'une juste distribution de la richesse se produise, l'équilibre naîtra. Autrement, la révolution est au bout. Et de là, viennent et s'aggravent à chaque heure les grondements, les craquements qui secouent la vieille société, dont l'échafaudage pourri s'effondre. Mais Beauchesne, triomphant, se faisait d'esprit très large, reconnaissait la marche inquiétante de la dépopulation, dénonçait les causes, l'alcoolisme, le militarisme, la mortalité des nouveau-nés, d'autres encore, fort nombreuses. Puis, il indiquait les remèdes, des réductions d'impôts, des moyens fiscaux auxquels il ne croyait guère, la liberté testamentaire plus efficace, la révision de la loi sur le mariage, sans oublier la recherche de la paternité. Boutan finit par l'interrompre. « Toutes les mesures ne feront rien. Ce sont les mœurs qu'il s'agit de changer, et l'idée de morale, et l'idée de beauté. Si la France se dépeuple, c'est qu'elle le veut. Il faut donc simplement qu'elle ne le veuille plus. Mais quelle besogne! Tout un monde à refaire !» Mathieu, gaiement, eut un cri superbe. « Eh bien, nous le referons! J'ai bien commencé, moi !» Constance, riant d'assez mauvaise grâce, répondit enfin à son invitation, en lui disant qu'elle serait heureuse de s'y rendre, mais qu'elle craignait de ne pouvoir disposer d'un dimanche pour aller à Janville. Avant de partir, Boutan vint donner une légère tape amicale sur la joue de Maurice, qui, après avoir sommeillé au bruit de la discussion, rouvrait ses lourdes paupières. Et Beauchesne eut une dernière plaisanterie. « Alors, tu as entendu, Maurice, c'est une chose décidée. Maman ira demain au marché acheter le chou, et tu auras une petite sœur. » Mais l'enfant cria, se mit à pleurer. « Non, non, je ne veux pas !» D'un mouvement passionné, dans sa froideur de femme rigide et sage, Constance le saisit, lui baisa les cheveux. « Non, non, mon chéri, tu vois bien que papa plaisante. Jamais, jamais, je te le jure !» Beauchesne accompagnait le docteur. Il continuait de plaisanter, heureux de vivre, content de lui et des autres, dans la certitude d'arranger l'existence au mieux de ses plaisirs et de ses intérêts. « Au revoir, docteur, sans rancune. Et puis, dites donc, quand on en veut un, il est toujours temps de refaire un enfant. » « Pas toujours, » répondit Boutan qui sortait. Le mot tomba, net et tranchant, pareil à un coup de hache. Et la mère, qui avait pris l'enfant sur elle, le remit debout en lui disant d'aller jouer. Une heure plus tard, comme midi était sonné depuis quelques minutes et que Mathieu, attardé dans les ateliers, remontait pour prendre Morange, ainsi qu'il le lui avait promis, il eut l'idée de raccourcir en traversant l'atelier des femmes. Et là, dans la vaste salle, déjà vide, déserte et silencieuse, il tomba sur une scène inattendue, qui le stupéfia. Norine, restée la dernière sous un prétexte, se pâmait, la tête renversée, les yeux noyés, tandis que Beauchesne, qui l'avait saisie violemment, à bras le corps, lui écrasait les lèvres sous les siennes. C'était le mari fraudeur, le mâle affamé, et qui portait ailleurs la semence. Ils eurent un chuchotement, sans doute quelque rendez-vous donné, puis ils virent Mathieu, ils restèrent saisis. Et lui se sauva, fort ennuyé du secret qu'il venait de surprendre.